Merci. Allez, bon, donc on commence. Séance du mardi 5 décembre 2023. Donc c'est notre troisième séance sur la question du temps. Alors, pour commencer, je laisse un peu de côté notre lecture pour justement la situer. On peut considérer qu'il y a sur le temps deux grandes perspectives. Une perspective cosmologique, pour laquelle le temps a une réalité objective, indépendante de la conscience. Et on peut dire que le premier grand philosophe a adopté cette perspective. Bon, ce n'est pas le seul, hein. Bien sûr, c'est Aristote, dans sa physique, dans le livre 4 de sa physique. Alors, évidemment, après lui, il y aura d'autres philosophes qui auront une perspective similaire, même si, bien sûr, ils ne pensent pas le cosmos de la même manière. Bon. Et puis, vous avez, deuxièmement, une perspective psychologique, j'allais dire, pourrait dire aussi phénoménologique, qui soutient que la notion de temps s'enracine dans la conscience. Et évidemment, c'est elle que nous sommes en train d'étudier en lisant le livre 11 des Confessions de saint Augustin. Mais on peut dire qu'au XXe siècle, se rattache à ce courant ce que l'on appelle la phénoménologie, dont le fondateur, c'est Edmund Husserl, qui écrit en 1905 des leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, qui est un livre très important, même s'il n'est pas très connu. Hein ? Donc, vous avez tout un courant phénoménologique au XXe siècle, avec des philosophes comme, je répète, le premier Husserl, ensuite vous en avez plein, vous avez Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Lévinas, Ricoeur, et puis, bon, d'autres noms que vous connaissez moins. Donc, vous voyez, c'est très important, hein, cette perspective-là. Et c'est sous cet angle-là, surtout, que les philosophes au XXe siècle et au XXIe siècle abordent la question du temps. Laissant plutôt aux physiciens le soin de parler, finalement, du temps cosmologique. Alors, quelques mots sur la première perspective, pour justement mesurer ce qui les différencie, ce qui les sépare. Et évidemment, je vais surtout penser à Aristote, que nous n'aurons pas le temps de présenter, hein. Je vais dire des choses assez élémentaires, j'espère suffisamment claires, pour présenter effectivement cette perspective. Donc la première perspective situe le problème du temps sur le plan du cosmos ou de la nature. C'est-à-dire qu'elle conçoit le temps par rapport aux choses temporelles. J'appelle choses temporelles les choses qui sont animé de mouvement, hein, qui change, qui se transforme. Par exemple, la croissance des plantes. Les plantes sont des choses contemporaines, si vous voulez. Par rapport aux événements, et au fond, de manière générale, par rapport à tout ce qui existe dans le temps. Et cette perspective caractérise le temps par la possibilité pour les faits de se succéder, c'est-à-dire de se distribuer, selon un avant et un après, selon un ordre de succession. La successivité étant le caractère fondamental du mouvement, quel que soit d'ailleurs ce mouvement, eh bien elle permet d'appréhender l'écoulement du temps comme la perception d'états successifs dans le mouvement d'un mobile. C'est-à-dire que vous voyez, c'est à partir du mouvement des corps que l'on va réfléchir sur le temps. Alors le temps est universel, c'est-à-dire qu'il permet d'appréhender tous les mouvements, quels qu'ils soient, chacun dans sa particularité, et en ce sens, il se distingue du mouvement, parce que chaque mouvement est particulier. Le temps est universel, il permet de mesurer tous les mouvements. Mais, comme l'écrit Aristote, donc le temps se distingue du mouvement, certes, mais, comme il l'écrit, il est quelque chose du mouvement. Il est quelque chose du mouvement. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que nous ne pouvons pas saisir le temps indépendamment de la perception du mouvement. Donc, le temps a partie liée avec le mouvement des corps, et il est précisément ce qui permet d'en faire le compte, c'est-à-dire de le mesurer. Vous voyez, le temps permet, au fond, de mesurer le mouvement. Et la mesure du temps passant par celle de l'espace parcouru par un mobile dont le mouvement est uniforme. D'où la définition du philosophe Aristote, qui évidemment pourrait paraître difficile à saisir comme ça de but en blanc, mais ça peut se comprendre. Voilà ce que dit Aristote. Le temps est le nombre du mouvement selon l'antérieur et le postérieur, selon l'avant et l'après. Donc, il est ce qui, dans le mouvement, manifeste le nombre. Qu'est-ce que ça signifie? Il est dans le mouvement, ce qui permet de distinguer en lui un avant et un après, et ce qui permet de les mesurer. Vous voyez, c'est comme ça que Aristote aborde la question. Et dans cette perspective, donc, le temps est lié à l'ordre des mouvements d'univers. Il se laisse appréhender, au fond, comme un aspect de la structure du monde lui-même, qui donne la possibilité de le mesurer. Donc, il est inhérent aux choses mêmes, dès lors qu'elles sont en mouvement. Vous voyez, il est inhérent à la réalité des choses. Et selon cette perspective, qu'on peut nommer au fond une perspective réaliste, hein, eh bien, le flux du temps ne s'interrompt pas avec sa perception. Il ne s'interrompt pas avec la conscience que nous avons du temps. C'est-à-dire que la fin de la perception, quand bien même il n'y aurait plus d'humanité pour percevoir le temps, ben le temps continuerait, hein, si vous voulez. Donc la fin de la perception ne signifie pas l'arrêt du temps, mais simplement la cessation de la possibilité de le nombrer. Donc la cessation de la possibilité de le mesurer. Et comme le reconnaît Aristote, certes, il faut une âme, on dirait nous, une conscience, pour percevoir le mouvement, pour discriminer des moments successifs, pour les comparer. Donc il faut une âme pour compter, en quelque sorte, hein, pour nombrer le mouvement selon l'antérieur et le postérieur, mais le mouvement existe sans l'âme. Le mouvement existe sans la conscience. Même si la conscience, évidemment, même si l'âme est ce qui est nécessaire pour pouvoir mesurer, nombrer, il se trouve que même s'il n'y avait pas d'âme, le temps, dans la mesure où il est lié au mouvement, ben le temps existerait. Puisque c'est du mouvement que le temps tient sa réalité physique, et non pas de l'âme qui le nombre. Quant au temps subjectif, quant au temps tel qu'il est éprouvé en l'âme, quant au temps vécu, si vous voulez, eh bien, il n'est rien d'autre que le temps objectif tel qu'il se projette dans la conscience, en fait. Le temps subjectif, finalement, n'est jamais que le reflet, je vais dire ça comme ça, du temps objectif. Aristote ne dit pas que l'âme, que la conscience ne joue strictement aucun rôle, mais elle ne détermine pas la réalité du temps. Alors, vous voyez, ce détour par un rapide exposé de la conception réaliste du temps permet donc de souligner par contraste l'originalité de la perspective qui est adoptée par saint Augustin dans le livre 11 de ses Confessions. Si c'est le premier finalement à rompre avec cette conception cosmologique. dans le cadre du christianisme, hein, bien sûr. Et comme nous allons voir, en reprenant la lecture du chapitre 23, nous en avions parlé la dernière fois, mais je vais la reprendre cette lecture, parce que l'un d'entre vous, évidemment, m'a dit que le texte n'était pas si facile que ça à lire. C'est vrai, j'ai regardé, effectivement, mais c'est aussi parfois à cause d'un problème de traduction, malheureusement. Bon, donc nous étions arrivés à la lecture du chapitre 23, lors de la séance précédente, et nous avions vu déjà qu'Augustin rompt avec la conception réaliste du temps qui le rapporte au mouvement des corps extérieurs. Et il va montrer à l'inverse que le temps n'a d'autre réalité que celle de l'esprit. Alors, l'esprit, l'âme, si les termes sont équivalents. Hein. Donc, le temps, pour Augustin, n'est pas autre chose que ce qu'il va appeler la distension de l'esprit, formule qu'il faudra expliquer, bien sûr, mais je la présente d'ores et déjà. Et au fond, qu'est-ce que c'est que cette distension d'esprit ? C'est un mouvement intérieur de l'esprit. Au fond, le temps n'a d'autre réalité que ce mouvement intérieur de l'esprit. Alors, je reprends la lecture du chapitre 23 en la rapportant d'abord au problème qu'il s'agit de résoudre, qui est le problème de la mesure du temps. Rappelez-vous ce problème. Comment concevoir la mesure du temps s'il s'avère qu'il n'est rien ? Hein ? Comment concevoir la mesure du temps si le temps n'est rien ? Puisque ni le passé ni le futur ne sont. Hein ? Le futur, c'est ce qui n'est pas encore. Le passé, c'est ce qui n'est plus. Et quant au présent, il est en instance de ne plus être, il est insaisissable, en tant qu'il est au fond un présent ponctuel qui n'a, comme le dit saint Augustin, qui n'a aucune étendue, aucune extension. Donc, comment voulez-vous mesurer quelque chose qui n'a pas d'étendue, qui n'a pas d'extension, qui est insaisissable? Vous voyez? Bon, vous savez, c'est ce que nous avions appelé une aporie. Hein, il y a une aporie. Bon. Et c'est cette aporie qu'il faut parvenir à surmonter, si on le peut. Bon, et pourtant, dans la pratique, nous mesurons le temps. Dans la pratique, nous mesurons le temps. Puisque nous disons, je cite saint Augustin, nous disons que ce temps-ci est le double de l'autre. Et c'est ce qu'il rappelle au chapitre... c'est ce qu'il rappelle au chapitre... J'ai un peu mes feuilles partout. Chapitre 21. Ce qu'il rappelle au chapitre 21. Ou alors je lis aussi au chapitre 20 que cette syllabe qui est longue a le double de temps de cette autre qui est brève. Donc, vous voyez, mesurons dans la pratique. Hein. Alors, comment arrive-t-on à mesurer quelque chose qui n'est rien ? C'est ça qui est déconcertant. Comment rendre compte de la mesure ? Alors, la solution traditionnellement donnée au problème de la mesure du temps, c'est la solution cosmologique, qui est examinée au chapitre 23. Et si vous regardez le chapitre 23... Alors, chapitre 23, vous prenez vos feuilles, j'ai commencé les photocopies au chapitre 23, cette fois-ci, donc vous voyez le début du chapitre. J'ai entendu dire une fois à un homme fort savant que le temps n'est autre chose que le mouvement du soleil, de la lune et des autres astres, mais je n'ai pu être de son sentiment. Alors, quel est ce savant ? Il n'est pas nommé. Alors, c'est pas sûr. C'est pas sûr, pourquoi ? Parce que Aristote ne dit pas que le temps, c'est le mouvement. Il dit que le temps se distingue du mouvement, mais il est quelque chose du mouvement, ce qui n'est pas pareil. Et au fond, qu'est-ce qu'il montre ? Il montre que le mouvement des planètes va servir à mesurer le temps. Hein, voilà ce qu'il va montrer. Alors, bon, est-ce que... Donc, on n'est pas sûr que ce soit Aristote. Alors, il est possible que ce soit un stoïcien. Bon, Zénon de Citium, par exemple. Bon, enfin, peu importe, à la limite, hein, peu importe. Donc, on croit souvent qu'il s'agit d'Aristote, en tout cas, ça, c'est vrai. Le chapitre 23, en tout cas, oui, c'est vrai, va concerner Aristote, même si ce n'est pas exactement comme on l'entend. Celui-ci, en effet, ne confond pas, je l'ai dit, le temps avec le mouvement des astres, mais il voit, dans leur caractère uniforme, circulaire, continu, immuable, il voit dans ce mouvement un mouvement qui peut jouer le rôle d'une unité de mesure, d'une unité de mesure invariable. Alors, évidemment, Augustin va marquer son désaccord avec ce genre de thèse et il va énoncer quatre arguments. Je devrais dire plutôt quatre objections. Alors, très rapidement, la première, c'est d'abord pourquoi accorder au mouvement des astres un tel privilège ? Si le mouvement des astres est le temps, pourquoi ne pas le dire aussi du mouvement de n'importe quel autre corps ? Alors, regardez bien, ligne 5. Car pourquoi les mouvements de tous les autres corps de la nature ne seraient-ils pas aussi bien le temps comme cela ? Donc, vous voyez que dès le départ, Augustin désacralise les astres qui sont considérés, hein, dans la cosmologie antique, comme des êtres parfaits, comme des êtres divins, doués d'un mouvement circulaire uniforme. Vous voyez, les astres sont ramenés par Augustin au rang des autres mobiles. Que ce soit, alors il donne un exemple, que ce soit le tour de la roue du potier ou le débit des syllabes par la voix humaine. Prends ces deux autres exemples. Alors ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, ligne 6 à 10, regardez bien, et pourquoi, si les cieux et tous les astres cessaient de continuer leur cours et que la roue d'un potier tourna à son ordinaire, ne formerait-elle pas un temps selon lequel nous mesurerions tous ces tours et dirions qu'ils seraient tous égaux? Bon, facile à comprendre. Si les astres cessaient le cours de leur mouvement, et si la roue du potier, elle, continuait à tourner, il faudrait compter sur le tour ordinaire du potier pour mesurer le temps. Donc vous voyez que, par cet argument déjà, Augustin suppose que le mouvement des astres n'a rien de régulier, qui pourrait s'arrêter, qui n'a rien d'immuable, contrairement, par exemple, à ce qu'affirme Aristote. Donc c'est une manière de dire, contrairement aux anciens, que le cosmos n'est plus une autorité de référence, parce que c'était l'autorité de référence pour les anciens. Les astres, pour Augustin, au fond, sont des créatures, comme les autres, de même nature, de même rang que les mobiles dont nous voyons le mouvement sur la Terre, dans ce monde que Aristote appelait le monde sublunaire. Alors, quelques mots là-dessus, si vous voulez. Vous voyez, pour le grand philosophe Aristote, finalement, le monde est comme divisé en deux, si vous voulez. Vous avez ce qui est au-dessus de la Lune, qui est parfait, éternel, vous voyez, ou les astres, hein, qui sont dotés d'un mouvement circulaire uniforme. Au fond, le monde céleste est un monde inaltérable, incorruptible. Vous voyez. Et puis, vous avez ce qui est au-dessous de la Lune, le monde sublunaire, notre monde, la nature, où, effectivement, les êtres sont soumis au devenir, ils sont corruptibles. Vous voyez, effectivement, ce sont ces êtres-là, ces êtres naturels, que Aristote étudie en écrivant sa physique. Oui. Bon, mais les cieux, c'est autre chose, hein. Vous voyez. Et les cieux ne sont pas affaire de physique, hein. Oui. La physique ne, La physique ne concerne que les êtres naturels. Bon. Alors, troisième argument, Augustin se réfère au récit de la Genèse pour caractériser les astres comme des flambeaux célestes. Des flambeaux célestes, destinés seulement à marquer le temps. Hein, vous voyez, il marque les saisons, les temps, les ans et les jours, dit Augustin. Donc, il marque le temps, mais il ne constitue pas le temps. Alors, évidemment, ça, c'est plutôt une objection qui ne concerne pas Aristote, puisque Aristote ne confond pas le temps et le mouvement. Ils sont, donc, les astres, seulement le signe du déroulement du temps dans un mouvement régulier. Et sur ce point-là, Aristote serait d'accord. Quatrième argument, si l'on demande ce qui constitue, alors ça va être le plus compliqué, cet argument, si on demande ce qui constitue la mesure de ce que nous appelons un jour, eh bien nous pensons spontanément que les 24 heures du jour sont mesurées par un circuit entier du soleil. Alors, lisons le texte, si vous voulez, ligne 32 à 38. Ligne 32 à 38, donc en bas à gauche. Chapitre 23. Ainsi, puisque nous appelons un jour, non seulement cet espace de temps que le soleil emploie à demeurer sur la Terre, quand on dit qu'il fait jour. Hein ? Bon. Donc, je répète, puisque nous appelons un jour, non seulement cet espace de temps que le soleil emploie à demeurer sur la Terre, selon laquelle manière de parler, on distingue le jour de la nuit, mais aussi son tour tout entier, de l'Orient à l'Orient. C'est-à-dire que le circuit entier, c'est les 24 heures, quoi. Hein ? Selon lequel nous disons que tant de jours se sont passés, comprenant dans ce nombre les nuits mêmes que l'on ne compte point séparément. Bon, vous voyez, c'est pas compliqué, voilà, le jour, c'est les 24 heures, hein, c'est le tour entier du soleil. Bon, alors, après avoir énoncé la définition de ce que nous appelons un jour, qu'est-ce que fait Augustin ? Il imagine, mais c'est une pure hypothèse, hein, il imagine que le soleil tourne plus vite et qu'il fasse son circuit non plus en 24 heures, mais en une heure. Donc, il imagine une variation hein, du soleil, une accélération du mouvement du soleil. Dans cette hypothèse, quel sera l'intervalle de temps que nous appelons un jour ? Voilà la question qui va se poser dans cette hypothèse. Et Augustin envisage trois possibilités. Regardez bien, ligne 40 à 42. Alors là, il y a un petit problème de traduction. Je demande... Donc, qu'est-ce qu'on entend par le jour ? Je demande si c'est le mouvement qui fait le jour ou si c'est le retardement et l'espace du temps dans lequel ce mouvement s'accomplit. Bon, on va dire tout simplement si c'est la durée. Hein. Ce sera plus simple plutôt que hein, cette longue phrase-là qui complique les choses. Ou bien si c'est l'un et l'autre. D'accord ? Donc, ou le mouvement, ou la durée, ou... Si c'est l'un ou l'autre. Si c'est l'un et l'autre, pardon. Alors, première possibilité, le temps est identique au mouvement du soleil. Si c'est le cas, si le temps est identique au mouvement du soleil, eh bien dans ce cas, le jour ne possédera plus qu'une durée d'une heure. À ce moment-là, effectivement, ce sera franchement difficile de mesurer un jour. En se référant au soleil, on aura besoin de se référer à autre chose. Hein ? Bon. Deuxième possibilité. Le temps est identique à la durée du mouvement accompli par le soleil, c'est-à-dire au circuit entier. Et alors, cette accélération du soleil ne modifiera en rien l'écoulement du temps, puisqu'il faudra simplement que le soleil accomplisse 24 révolutions pour qu'on puisse parler d'un jour. Vous voyez, dans ce cas-là, la vitesse peut s'accélérer, ça ne changera rien à ce qu'on entend par une journée. Ou bien, troisième possibilité, le temps est identique à la fois au mouvement du soleil et à sa durée, puis alors à ce moment-là, ça devient impossible. Hein. Franchement, il devient impossible dans ce cas-là d'utiliser l'expression « un jour ». Bon, je ne veux pas lire tout le texte là-dessus, parce qu'on ne va pas rester trop longtemps sur ce point. Mais c'est Augustin vous l'explique. Hein. Bon. Alors, que veut surtout montrer Augustin par cette variation imaginaire ? Pas que la vitesse du mouvement du soleil peut varier, sans que la mesure de ce mouvement, c'est-à-dire sa durée, en soit affectée. Donc il s'ensuit que je pourrais continuer à mesurer la vitesse du soleil, même si celui-ci accomplissait 24 fois plus vite son trajet d'Orient à Orient. Vous voyez ? Donc cette conclusion, évidemment, permet de distinguer le temps du mouvement, ça c'est clair, mais elle ne nous permet pas encore de déterminer ce qu'est le temps. Nous avons seulement appris de cette variation imaginaire que la mesure du mouvement, donc sa durée, est indépendante du mouvement et de sa vitesse. Voilà ce que nous avons appris. Donc le temps n'est pas le mouvement d'un corps, serait-il celui des astres, dont on ne peut pas assurer qu'il est invariable. Alors, il faut ici souligner, encore une fois, j'insiste là-dessus, combien l'hypothèse d'une vitesse variable du Soleil, imaginée ici par Augustin, combien cette hypothèse est iconoclaste, en rupture avec toute la tradition philosophique pour laquelle le mouvement des astres est invariable, en raison de sa perfection. Et s'il est vrai qu'Aristote ne confond pas le temps avec le mouvement, il est, je le rappelle, pour lui, quelque chose du mouvement, et le mouvement des astres a pour fonction, selon lui, d'établir une unité de mesure absolue qui permet d'ailleurs de mesurer la durée de tous les mouvements. Vous voyez ? C'est l'étalon universel. Hein ? C'est l'étalon universel, étant donné son caractère continu, uniforme, éternel. Alors pour Augustin, Dieu, le Créateur, peut changer la vitesse du mouvement des astres, comme le potier, celui de son tour, hein, ou comme celui qui récite un poème, le débit des syllabes. C'est les exemples qu'il donne. Vous voyez ? Donc, oui, là, il y a quelque chose d'assez audacieux dans son propos. Alors, la référence biblique de l'arrêt du soleil qui est envisagé, hein, avec, vous savez, le livre de Josué, eh bien, elle va dans le même sens que l'hypothèse de l'accélération de son mouvement. Alors, l'épisode, vous le connaissez, c'est Josué prie Dieu d'arrêter le mouvement du soleil afin de pouvoir achever sa victoire contre ses ennemis avant la tombée de la nuit. Hein, eh bien, Dieu répond à sa prière, hein, effectivement. il fait arrêter le soleil. Hein, et comme ça, Josué peut être victorieux. Évidemment, vous êtes dans une autre conception. Hein. Alors, vous voyez, lisez par exemple lignes 69 à 74, hein, toujours au chapitre 23. Car le soleil s'étant arrêté à la prière de Josué, afin de lui donner le loisir de remporter une entière et pleine victoire, le temps ne laissa pas de courir encore que cet astre fut arrêté, puisque ce combat continua et finit durant cet espace de temps qui était nécessaire pour l'achever. Alors, de ce chapitre 23, hein, vous avez vu le passage, hein, de ce chapitre 23, on peut tirer deux conclusions, qui sont d'ailleurs énoncées au chapitre 24, qui vient après. Alors, première conclusion, première chose, ligne 7 à 10 du chapitre 24. C'est très simple, je lis. Car lorsque je vois, ligne 7 à 10, hein, lorsque je vois mouvoir un corps, je mesure par le temps la durée de son mouvement depuis qu'il a commencé jusqu'à ce qu'il ait cessé de se mouvoir. Bon, ce n'est pas compliqué, c'est ce qu'on a vu. Et deuxième conclusion, aussi établie par le chapitre 24, à l'aide du temps, on mesure aussi bien le mouvement d'un corps que son repos, que son immobilité. Vous voyez ? Le temps ne mesure pas seulement le mouvement. L'absence de mouvement laisse indifférente la continuité du temps. Et à sa suite, la mesure qu'on en prend. Bon, et là, c'est ce que montre Augustin à la fin du chapitre 24. Bon, je ne vais pas lire parce que c'est facile à comprendre, hein, vous verrez. Mais si vous voulez, à tête reposée, relire le texte, vous lirez la fin du chapitre 24. Alors, si on ne mesure pas le temps par le mouvement, et si on mesure le mouvement aussi bien que l'immobilité par le temps, le problème qui se pose, c'est comment est-ce que je mesure le temps lui-même ? Comment est-ce que je mesure le temps même, comme dit Augustin, chapitre 26, ligne 10, donc page 6. Hein ? Vous voyez, ligne 10, chapitre 26, la question qui se pose au début du second paragraphe, mais comment est-ce que je mesure le temps même ? Eh bien, réponse, on ne peut mesurer le temps que par du temps. Ah oui, eh oui, seul du temps peut mesurer du temps. Alors, cette réponse, c'est ce qu'on va bien établir, cette réponse évidemment exclut toute référence à une unité de mesure extérieure comme celle du mouvement régulier des corps célestes, c'est clair, ça s'est établi. Mais maintenant, évidemment, on va essayer de comprendre comment on va pouvoir mesurer le temps. Alors, normalement, quand on mesure, qu'est-ce qu'on fait pour mesurer ? Pour mesurer, il faut disposer d'une unité de mesure fixe. On est bien d'accord ? Une unité de mesure fixe qui permette la comparaison de deux durées. Et ici, je cite Augustin, ligne 10 à 13. Ligne 10 à 13. Alors, toujours chapitre 26. Donc, je reprends d'ailleurs la question qu'il avait posée. Mais comment est-ce que je mesure le temps même ? Est-ce par un temps plus court que nous mesurons un temps plus long, ainsi que nous nous servons d'une coudée pour mesurer une longue pièce de bois ? J'arrête ma lecture. Ici. C'est-à-dire ici. Au fond, procède par une analogie avec l'espace. C'est-à-dire que de même que dans l'ordre de l'espace, j'utilise une coudée figurant l'unité fixe pour mesurer une longue pièce de bois, hein, et bien de même, dans l'ordre du temps, ben je vais utiliser un temps court pour mesurer un temps long. Vous voyez ? Je comprends. Mais alors, il y a une question qui se pose. Comment appréhender l'unité de mesure de la durée, ce temps court ? Comment l'appréhender qui va nous permettre de mesurer le temps long ? Eh bien, ici, oui, il avance progressivement. On pourrait penser que, puisqu'il est rhéteur, hein, c'est un homme qui a étudié la rhétorique, hein, Augustin, donc il fait beaucoup appel au discours, à la poésie, etc. Tous ces exemples sont souvent de cet ordre-là. Eh bien, on pourrait penser que la codification des périodes poétiques, on va dire tout simplement, on pourrait penser que les règles de la versification latine, en l'occurrence, eh bien, on pourrait penser que ces règles permettent de fournir cette unité de mesure en déterminant les rapports de durée qui existe entre les éléments qui composent un poème. Alors, on va dire le passage. On va dire le passage, si vous voulez, ligne 16 à 20. Ligne 16 à 20, et donc, chapitre toujours 26. C'est aussi en la même sorte que nous mesurons la longueur d'un poème par celle des vers qui le composent, et la longueur des vers par celle des pieds. Alors, un pied, c'est deux syllabes. Hein. et la longueur des pieds par celle des syllabes, et la longueur des syllabes qui sont longues par la durée des syllabes qui sont brèves. Oui, c'est logique. Donc, vous voyez, les éléments, l'élément le plus petit, c'est les syllabes brèves, et puis après, vous avez les syllabes longues, après, vous avez les pieds, etc., etc. Bon. Seulement, le problème, c'est que, comme il va le montrer, les rapports de durée qu'on peut établir ainsi entre les syllabes, les pieds, les vers et le poème en sa totalité, est-ce qu'ils permettent, ces rapports de durée, est-ce qu'ils permettent de déterminer invariablement la durée? Est-ce qu'ils nous fournissent une unité de mesure invariable de la durée? Eh bien, aucunement. Aucunement, étant donné qu'un même élément poétique peut être prononcé selon des durées différentes, selon des vitesses variables, justement. Regardez bien, ligne 30 à 33. Ligne 30 à 33. Mais on ne détermine pas pour cela un certain espace de temps, puisqu'il se peut faire qu'un petit vers demeure plus longtemps à se prononcer, si on le prononce lentement, que non pas un long que l'on prononce plus vite. La traduction est ancienne. Mais enfin, vous avez compris l'idée, hein ? Mais on ne détermine pas pour cela un certain espace de temps, puisqu'il se peut faire qu'un petit vers demeure plus longtemps à se prononcer, si on le prononce lentement, que non pas un long que l'on prononce plus vite. Bon, donc, avec des rythmes de déclamation différents, on peut prononcer une syllabe brève pendant un temps plus long qu'une syllabe longue. Alors, conclusion, eh bien, les règles de la versification qui établissent des rapports de durée, eh bien, elles sont relatives, hein, si vous voulez. Elles ne fournissent pas, en tout cas immédiatement, d'unité de mesure de la durée. Hein ? Elles ne nous fournissent pas cette unité de mesure. Bon, elles permettent de situer des rapports, c'est évident, mais ce n'est pas suffisant. Alors, ce qui est ici intéressant, c'est la manière dont Augustin tire le bilan de toute cette réflexion, finalement assez négative, pour arriver à dire ce qu'il dit, pour arriver à... Alors, je vais lire simplement le texte ici. Regardez bien, ligne 35 à 37. C'est très étrange, la façon dont il dit les choses. Regardez, 35 à 37, chapitre 26. Ainsi, il me semble que le temps n'est autre chose qu'une certaine étendue. Mais où se trouve cette étendue? Certes, je ne sais, si ce n'est dans l'esprit même. C'est quand même un peu bizarre. Alors, vous voyez, il est embarrassé, mais il trouve tout de même une réponse. Il dit, c'est dans l'esprit. Alors, c'est ça qui est tout de même un peu intriguant, parce qu'on ne voit pas très bien pourquoi il peut dire ça. Alors, il faut essayer de comprendre sa démarche, hein, si vous voulez. Alors, je trouve ici que la traduction n'est pas non plus géniale. Et je vous ai... j'ai cherché une autre. J'en ai trouvé une... c'est de deux auteurs qui s'appellent Tréorel et Buissou, et plus fidèle au texte latin, à mon avis. Alors, voilà ce que ça donne. Par suite, au lieu de ainsi, il m'est apparu que le temps n'est pas autre chose qu'une distension, le mot distension est employé, non pas étendu, déjà, c'est mieux. Mais de quoi? Je ne sais, et il serait surprenant que ce ne fût pas de l'esprit lui-même. Et il serait surprenant, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup clair, et il serait surprenant que ce ne fût pas de l'esprit lui-même. Alors, vous voyez, cette traduction, elle le mérite, c'est pour ça que c'est vrai qu'on est toujours embêté quand on lit un philosophe dans une traduction, parce que les traductions, elles ont leurs défauts, hein, et parfois il faut en regarder deux ou trois, ou alors il faut lire carrément le texte dans sa langue originale, hein. Donc ici, cette traduction, celle que je viens de vous donner, elle a le mérite d'abord de ne pas effacer le terme de distensio, qui est important, et de bien montrer aussi la démarche d'Augustin, en montrant comment il amène de façon négative, en fait, sa thèse. Hein, puisqu'il serait surprenant que ce ne fût pas de l'esprit lui-même. Alors, justement, je voudrais je voudrais montrer qu'au fond, il présente ici sa thèse de la distension d'esprit, en montrant que c'est celle qui reste quand on a éliminé toutes les autres, en fait. C'est celle qui reste. La seule qui nous reste quand on a éliminé toutes les autres, quand il s'avère que toutes les autres ne sont pas valables. Voilà, c'est comme ça qu'il fait, qu'il procède, vous voyez. Bon. Et je rappelle que le problème à traiter, c'est en quoi consiste le temps et comment peut-on le mesurer? Eh bien, pour arriver à une réponse, il procède par élimination. Puisque je mesure le mouvement d'un corps par le temps et non l'inverse. Puisqu'on ne peut mesurer un temps long que par un temps court. Puisque nul mouvement physique n'offre une mesure fixe de comparaison, hein, le mouvement des astres est variable, eh bien qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste, vous voyez? Il n'y a pas d'autre réponse possible que celle selon laquelle l'extension du temps consiste dans le mouvement intérieur de l'esprit. Il ne peut y avoir que cette solution. Que dans le mouvement intérieur de l'esprit que Augustin appelle la distension d'esprit. On ne comprend pas encore ce que ça signifie, mais on verra. Donc, puisque nous ne disposons dans l'extériorité du monde, ni dans l'observation du mouvement des astres, ni dans les règles de la versification, puisque nous ne disposons donc dans l'extériorité du monde d'aucune unité fixe permettant de mesurer le temps, il faut placer l'unité de mesure dans l'intériorité de l'esprit lui-même. Et c'est donc en lui, c'est dans l'esprit, que doit se trouver cette unité de mesure, cette unité de mesure absolue, donc de la durée. Et donc on va, à partir de là, se rendre sur le lieu même, hein, en quelque sorte, de la mesure du temps. On va effectivement se rendre sur le lieu de l'esprit. C'est ce qu'il fait à partir du chapitre 27. Alors, et là c'est un chapitre très important, parce que maintenant les choses sérieuses, elles commencent vraiment maintenant, si vous voulez. Pour l'instant, c'était qu'un apéritif. Hein. Et oui, il fallait exclure d'abord tout ce qui n'était pas valable. Ben, il fallait le faire. Hein. Et oui, on peut pas comme ça, il faut y aller progressivement. Hein. Et un texte philosophique, c'est pas une suite d'affirmations. Il y a toute une démarche. Hein. Et ça ne vaut que par sa démarche. Hein. Celui qui vous résume en philosophe en disant voilà ce qu'il nous a dit, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il nous fait savoir. Bon, je suis désolé, mais c'est pas ça la philosophie. Donc la philosophie, c'est la démarche. Hein. Et vous voyez bien que si vous suivez attentivement la démarche de l'auteur, ça devient aussi pour vous plus clair et plus limpide et moins arbitraire. Enfin, sinon, ça vous paraîtrait arbitraire. Bon. Donc, voilà, on commence au chapitre 27. Et nous allons voir, dans ce chapitre important, donc comment Augustin va articuler la thèse de la distension d'esprit à la thèse qu'il a déjà établie au chapitre 20. Vous savez, cette fameuse thèse du triple présent. Vous vous souvenez de cette thèse du triple présent? C'était un grand moment, ça, dans le texte. Hein, et je rappelle ce que ça signifie. Cette thèse du triple présent, elle résolvait une première énigme. Cette énigme, c'était la suivante. Comment le temps peut-il exister si le passé n'est plus, si le futur n'est pas encore, et si le présent tend à ne plus être, en tombant sans cesse dans le passé? Donc, c'était cette énigme qu'il fallait résoudre. Eh bien, elle se résolvait. Si l'on sait, elle se résout, si l'on sait qu'il n'y a pas trois temps, mais trois modes du présent. Vous vous souvenez, hein? C'est-à-dire que les choses futures et les choses passées existent non pas en elles-mêmes, puisqu'elles ne sont plus, ou elles ne sont pas encore, mais elles existent à travers leurs images et leurs signes dans le présent du souvenir ou dans le présent de l'attente. Hein, vous voyez, c'est comme ça qu'on abordait les choses. C'est-à-dire que, et évidemment, de cette manière-là, le présent lui-même acquiert une extension. Il n'est pas réductible, de cette manière, au présent ponctuel qui est insaisissable. Vous voyez, il a une épaisseur. Bon. Bon, mais cette première énigme, donc, on l'avait effectivement d'une certaine façon abordée, on y avait répondu hein, par cette théorie des, je dirais, du triple présent. Mais maintenant, il y a une deuxième énigme, rappelez-vous. Et celle-ci, pour l'instant, elle nous fait des misères. Et elle n'a pas encore été résolue. Comment le temps peut-il être mesuré s'il n'a pas d'étendue? Il est censé ne pas avoir d'étendue. Ben, comment on va pouvoir le mesurer? Eh bien, cette deuxième énigme, elle va trouver sa solution dans la thèse de la distension d'esprit, mais qui va s'articuler à la thèse du triple présent. Ouais, vous voyez comment ça se fait. Alors, dans le chapitre 27, Augustin présente trois exemples dont l'importance va en s'accentuant. Jusqu'au troisième exemple, où il s'agira d'éclamer un vers latin qui est extrait d'un hymne de l'évêque Ambroise de Milan, vous savez, celui qui l'a converti au christianisme. Hein? Deus creator omnium. Donc ça va jusque-là. Alors, lisons attentivement le texte, hein? Je crois que c'est nécessaire. Premier exemple. Donc, vous avez la page 6, et vous regardez d'abord les lignes 5 à 7. Donc, colonne de droite. Imagine-toi qu'une voix corporelle commence à se faire entendre, qu'elle continue à se faire entendre, et puis qu'elle cesse, et que le silence lui succède. Et dans la mesure où la voix a cessé de se faire entendre, tout le reste du passage, vous allez voir, tout le reste du passage est écrit au passé. On va parler de la voix qui est passée. Alors, je lis la suite, ligne 8 à 15. Alors, cette voix est passée, et ce n'est plus une voix. Elle était à venir avant qu'elle se fît entendre, et comme elle ne pouvait alors être mesurée, parce qu'elle n'était pas encore, elle ne le saurait être maintenant, à cause qu'elle n'est plus. Elle pouvait donc être mesurée pendant qu'elle résonnait, parce qu'elle était, et qu'ainsi on la pouvait mesurer. Mais en ce temps-là même, elle n'était pas ferme et stable, puisqu'elle marchait et passait. Donc ce n'est pas lorsque la voix n'avait pas encore commencé de résonner qu'on pouvait la mesurer, vous êtes d'accord? Ni maintenant qu'elle n'est plus. Vous êtes d'accord? On le pouvait seulement pendant, hein, vous voyez, attention, regardez bien le mot, pendant qu'elle résonnait. Et voyez ici, c'est au passé que l'on parle du passage même du présent. C'est au passé qu'on parle du passage même de la voix, quand elle était présente. Vous voyez? C'est-à-dire que ce passage, ce moment présent où elle résonnait, est présenté comme disparu. Alors, ce premier exemple pourrait nous conduire au désespoir. On pourrait penser, bah, enfin, décidément, il n'y a pas de solution. Vous voyez, c'est toujours comme ça que le texte, il y a toujours quelque chose, une certaine dramaturgie du texte. Vous voyez, ah, on ne va pas s'en sortir, hein, on ne va pas y arriver. Comment, en effet, savoir si le temps a des tendues qui permettent de le mesurer, si on ne peut parler que d'un temps qui n'est plus ou qui n'est pas encore? Eh bien, il y a cependant quelque chose dans l'exemple, quelque chose d'important qui va pouvoir nous aider et qui va nous mettre sur la voie de la solution. Regardez bien, ligne 13 à 19. Ligne 13 à 19. Je reprends un peu ce que j'avais déjà lu. Elle pouvait donc être mesurée pendant qu'elle résonnait, parce qu'elle était, et qu'ainsi on la pouvait mesurer. Mais en ce temps-là même, elle n'était pas ferme et stable, puisqu'elle marchait et passait. Et ne serait-ce point pour cette même raison qu'on pouvait plutôt la mesurer, vu qu'en passant de la sorte, elle s'étendait dans quelque espace de temps qui donnait moyen de la mesurer, car le présent n'a aucun espace. Alors, ici, regardez bien. pour marquer en effet que le passage de la voix, hein, ce présent de la voix qui est en train de passer, hein, quand on l'entend, eh bien, on peut remarquer que ce passage possédait une certaine extension, une certaine durée, hein, une certaine durée, un espace de temps, comme dit Augustin. Et cet espace de temps, il rendait possible la mesure. Cet espace de temps permettait de mesurer sa durée. Bon. Donc, vous voyez ici que le passage de la voix est présenté et pensé comme une tension, hein, puisque je reprends l'expression, en passant de la sorte, la voix s'étendait dans quelque espace de temps. Et ici, regardez bien, Augustin oppose terme à terme le présent ponctuel, hein, celui qui n'a aucun espace et qui ne peut pas être mesuré. Hein. Donc, il oppose terme à terme le présent ponctuel au présent constitué par l'extension de la voix, qui en s'étendant peut être mesuré en termes de durée. Vous voyez, il y a un présent vivant en quelque sorte, un présent qui a une épaisseur, vous voyez, que l'on perçoit lorsqu'on entend la voix, hein, et c'est ça qui est remarquable, et c'est ça qui constitue une sorte de promesse, de solution, hein, si vous voulez. Donc on devine déjà, d'ailleurs, à travers cet exemple, on devine déjà que ce présent de la voix qui passe, en s'étendant, porte la marque de l'activité de l'esprit. Mais je n'en dis pas plus. Voilà. Deuxième exemple. Le deuxième exemple est une variante du premier. Ligne 20 à 23. Imagine-toi, mon âme, qu'une autre voix commence de résonner. Et qu'elle résonne encore par un son continué et qui n'est point interrompu. Donc, vous voyez que cette voix qui commence à résonner, qui résonne encore, c'est une sorte d'objet temporel, hein, en quelque sorte. Hein. Ben, comment mesurer cet objet temporel ? Ligne 23 à 26. La suite. Mesurons-la donc durant qu'elle résonne encore, puisque lorsqu'elle cessera de résonner, elle sera passée et ne sera plus pour pouvoir être mesurée. Mesurons-la donc afin de dire quelle sera son étendue. Eh bien, dans ce deuxième exemple, cette fois-ci, on ne parle plus du passage de la voix qui résonne au passé, on en parle au présent. Hein, on parle du passage de la voix au présent, cette fois-ci. Et c'est au futur antérieur que l'on parle de sa cessation, comme d'un futur passé. Hein, la cessation, elle n'est pas encore là. Eh bien, c'est un futur antérieur. Et c'est bien ça qui fait problème, d'ailleurs. Regardez bien le problème. Ligne 35 à 36. Ligne 35 à 36, donc là, vous allez, page 7. Oh. Voilà le problème qui va se poser pour ce second exemple. Mais lorsqu'elle sera finie, elle ne sera plus. Comment pourrons-nous donc la mesurer ? Impossible. Alors voyez le problème. Impossible de mesurer le passage quand il continue. Il faut en effet que la voix cesse de résonner pour déterminer l'intervalle de durée pendant lequel la voix résonne. C'est-à-dire que l'acte de mesure exige un intervalle déterminé, un intervalle borné par un commencement et une fin. Pour mesurer, il faut qu'il y ait un commencement et une fin. Hein. Si ça continue à résonner, on ne peut pas mesurer. Puisque là, c'est pas encore arrivé la fin. Mais le problème, c'est que dès que la voix cesse, c'est ça le problème, elle tombe dans le néant. Alors à ce moment-là, on ne peut plus rien mesurer. Vous voyez le problème ? C'est désespérant. Vous êtes encore désespéré. On ne va pas s'en sortir. Donc, est-ce qu'on va vraiment parvenir à mesurer le temps ? Eh bien, malgré tous ces obstacles, malgré toutes ces apories, hein, vous vous souvenez du sens du terme, eh bien, malgré tout ça, Augustin reste confiant. Puisqu'à deux reprises, regardez bien, à deux reprises, il va affirmer Nous mesurons toutefois le temps. Lisons ensemble le texte, ligne 36 à 42. Ligne 36 à 42. Alors, il demande comment pourrons-nous donc la mesurer ? Nous mesurons toutefois le temps. Et cependant, nous ne mesurons pas ceux qui ne sont pas encore arrivés, ni ceux qui sont déjà passés, ni ceux qui n'ont aucune étendue, ni ceux qui n'ont point de borne. Nous ne mesurons donc ni les temps à venir, ni les temps passés, ni les présents, ni ceux qui passent, et nous mesurons toutefois le temps. Alors, oui, j'aime beaucoup, c'est une espèce de suspense. Bon, alors d'où lui vient cette assurance ? Malgré tout ce qu'on pourrait craindre, il est assuré qu'on peut mesurer le temps. Alors d'où lui vient cette assurance ? Eh bien, pour le comprendre, il faut lire le troisième exemple. Et ce troisième exemple va être décisif. Alors, avant de l'aborder, je ferai deux remarques. Alors, cette fois-ci, il va s'agir de réciter un vers, le Deus Creator Omnium. Bon. Donc, il s'agit de réciter un vers latin tiré d'une hymne d'Ambroise. Oui, c'est d'Ambroise. Hein. Et qu'est-ce que c'est que réciter ce vers ? Réciter ce vers, c'est mettre en œuvre les règles de la versification latine, dont on a parlé tout à l'heure. Mais cette fois, on ne va pas se rapporter aux règles de la versification latine de manière purement extérieure. Elles seront intégrées dans le moment même de l'acte d'énonciation, dans le moment même de l'acte de récitation, si vous voulez. Hein ? Elles seront incorporées, elles seront intégrées. Bon, donc ça c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, cet exemple apporte une complexité plus grande que celle d'un son continu. Dans les deux exemples précédents, vous aviez affaire à une voix qui résonne. Un son continu. Là, cette fois-ci, ce n'est pas la même chose. Il ne s'agit pas d'une voix qui résonne, il s'agit d'une alternance de syllabes brèves et de syllabes longues. Hein ? Donc, il y a une complexité. Il y a une complexité de l'exemple qui se caractérise par une alternance de syllabes longues et de syllabes brèves à l'intérieur du vers. Et cette complexité... Regardez bien son intérêt, elle va nous contraindre de réintroduire la mémoire, comme on va le voir. Vous voyez, cette complexité va permettre, vous voyez, d'introduire un élément fondamental qui est la mémoire. Alors, maintenant que j'ai fait ces deux remarques, lisons notre texte, donc ligne 43 à 51. Donc ce vers latin, Deus Creator Omnium, qui est composé de 8 syllabes. On a alternativement une brève et une longue. Et ainsi, la première, la troisième, la cinquième et la septième, qui sont brèves, sont simples au regard de la seconde, de la quatrième, de la sixième et de la huitième, qui sont longues. Chacune de ces longues contient deux fois autant de temps que chacune de ces brèves. Je le remarque en les prononçant. Vous voyez, c'est pas de l'extérieur, là, hein ? C'est intérieur. Je les remarque en les prononçant. J'assure qu'il est ainsi. Et on connaît manifestement et sensiblement qu'il est ainsi, en effet. Donc, vous voyez que l'alternance des 4 syllabes brèves et des 4 syllabes longues introduit ici un élément de comparaison. Et cet élément de comparaison va faciliter la mesure. Pour mesurer à l'aide d'une syllabe courte une syllabe longue, cependant, et c'est ça toute la difficulté, il faut pouvoir disposer de l'une et de l'autre en même temps pour les comparer l'une à l'autre. Mais comment allez-vous pouvoir comparer cette syllabe longue et cette syllabe brève si elles ne résonnent pas au même moment, si elles résonnent successivement, comment allez-vous pouvoir les comparer, les rapporter l'une à l'autre, si effectivement elles se succèdent dans le temps, hein ? Pour comparer, il faudrait que dans le présent même, je puisse effectivement faire cette comparaison. des deux durées, mais c'est pas possible, regardez bien. Ligne 63 à 72. Ligne 63 à 72. Bon, j'aurais pu prendre avant, mais ouais, on va aller là. Donc, qu'est-ce donc que je pourrais mesurer? Où est cette syllabe brève dont je me sers pour mesurer la longue? Où est cette syllabe longue que je puisse mesurer? Elles ont toutes deux rendu leur son lorsqu'on les a prononcées. Elles s'en sont envolées. Elles sont passées. Elles ne sont plus. Je les mesure néanmoins. Et autant qu'on se peut fier à l'expérience de ses propres sens, je réponds hardiment qu'en ce qui est de l'espace du temps, l'une est simple et l'autre est double. Ce que je ne saurais dire que lorsqu'elles sont déjà passées et finies. Et voilà, effectivement, la question qu'on peut se poser, mais alors par quel miracle, je peux affirmer avec assurance que l'une est le double de l'autre? Comment puis-je mesurer deux syllabes qui se sont envolées, qui sont passées, qui ne sont plus? Eh bien, voilà la réponse. La voici, vous êtes sauvés, c'est ligne 73 à 76. Regardez bien. Ce n'est donc pas elles-mêmes que je mesure, puisqu'elles sont passées et ne sont plus. Mais je mesure quelque chose qui est dans ma mémoire et qui y demeure fortement gravé. Je reprends cette formule. Ce n'est donc pas elles-mêmes que je mesure, puisqu'elles sont passées et ne sont plus. Mais je mesure quelque chose qui est dans ma mémoire et qui y demeure fortement gravé. Donc, comprenons bien, ça c'est le point le plus important. Nous ne saurions mesurer les syllabes elles-mêmes qui se sont envolées, qui ne sont plus. Mais nous mesurons ce qui, d'elles, demeure en notre mémoire. Nous ne mesurons pas les syllabes elles-mêmes, puis je le répète, elles ne sont pas là. Elles ont disparu. On ne peut pas les saisir. Je mesure les impressions qu'elles ont laissées dans ma mémoire. Vous voyez ? Nous ne mesurons pas les syllabes réelles qui sont passées, nous mesurons les impressions qu'elles ont gravées dans notre mémoire. Et donc, nous avons ainsi trouvé, dans l'esprit lui-même, l'élément fixe qui permet de comparer les temps longs et les temps courts. Et vous voyez, le mot « impression » est ici très important. « Impression », c'est la trace qu'a laissée, effectivement, la syllabe qui a disparu. Mais elle est toujours présente, d'une certaine manière, à travers son impression. Et donc, et ici, le verbe important, regardez bien, avant, c'était le verbe « passé » qui était le verbe important. Maintenant, le verbe « important », c'est le verbe « demeurer ». Regardez bien, ligne 75, 76, je reprends. « Je mesure quelque chose qui est dans ma mémoire et qui y demeure, qui y demeure fortement gravé. » Vous voyez ? Il y a quelque chose qui demeure dans la mémoire, ce qui fait que je peux mesurer, effectivement, un temps court et un temps long. Et c'est en nous-mêmes, donc, que nous trouvons le point fixe de la mesure du temps, dans notre esprit, pour autant qu'il demeure, après leur passage, l'impression faite par les choses en passant. Vous voyez, ligne. Alors, regardez là, le texte, le paragraphe suivant. Ligne 77 d'abord. Ligne 77. Ainsi, c'est dans toi, mon âme, que je mesure les temps. Et ligne 80. C'est en toi, dis-je, que je mesure l'impression que les choses qui passent font dans toi et qui y demeurent après qu'elles sont passées. Vous voyez, ici, je voudrais insister sur ce point. Si tout n'était que passage, si les choses ne faisaient que passer, si mon esprit lui-même ne faisait que passer avec elles, si tout n'était que flux, eh bien, je n'aurais aucune perception du temps. Je n'aurai aucune perception du temps qui me permette de comparer mon présent avec mon passé, qui me permettrait d'anticiper un futur. C'est-à-dire que comprenez bien que pour qu'il y ait une perception du temps, pour qu'il y ait une mesure du temps, eh bien, il est nécessaire que le passé soit là encore présent. Il est nécessaire que le passé soit encore présent tout en étant déjà passé. Il est nécessaire qu'il soit présent sous forme de passé à travers l'impression qu'il a laissée. Donc, vous voyez, pour qu'il y ait perception du temps, il faut que l'esprit échappe à ce qui caractérise le plus essentiellement le temps, c'est-à-dire, il faut que l'esprit échappe au passage, il faut que l'esprit échappe à la disparition. Le temps, c'est de la succession, hein, c'est du passage. Eh bien, pour pouvoir saisir le passage, il faut que quelque chose ne passe pas. Et l'esprit, justement, ne passe pas. Et il ne passe pas justement en ce qu'il garde en lui, par la mémoire, l'impression des choses passées. Alors, je ne sais plus, l'un d'entre vous m'a envoyé l'autre jour le poème d'Apollinaire, vous savez, le fameux « Sous le pont, Mirabeau, coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. » Eh bien, on est en plein dedans. C'est-à-dire ici, il y a quelque chose qui ne passe pas pour saisir le passage. C'est la pensée, c'est justement la pensée que tout passe qui ne passe pas. C'est le sujet, en quelque sorte, qui perçoit que tout passe, qui lui ne passe pas, parce qu'au fond, il est sur le pont Mirabeau en train de regarder le temps défiler, hein, le fleuve s'écouler, hein, là, ça ne cesse de s'écouler. Les jours s'en vont, je demeure, hein, vous voyez. Et donc, s'il n'y avait pas, si tout n'était que flux, si nous étions pris nous-mêmes dans le flux, mais nous n'aurions pas la perception du temps. Vous voyez, vous comprenez ? Nous ne pourrions même pas parler de passé ni d'avenir. Vous voyez ? Nous serions embarqués, nous serions emportés par le courant, point, c'est tout. Donc, il faut que quelque chose ne passe pas pour saisir le passage. Il faut que quelque chose demeure pour saisir le passage. Et c'est ça que découvre ici Augustin, en quelque sorte. C'est l'esprit, finalement, qui ne passe pas. Il y a dans l'esprit quelque chose qui ne passe pas. Il y a une permanence. Une permanence. Alors, évidemment, est-ce qu'on a terminé ? Est-ce que tout est fini ? Non, non, parce que on ne peut pas s'en tenir, on ne peut pas s'en tenir à l'impression passive que les choses qui passent ont laissé dans l'esprit. Ça ne suffit pas. Hein ? C'est important, ça ne suffit pas. Et vous allez voir que l'expérience du temps ne se borne pas à l'évocation d'une impression dans la mémoire pour mesurer une sensation présente. Hein. Et vous allez voir que l'expérience du temps est liée au progrès, pardon, l'expérience du temps est liée au projet de l'esprit humain, à ses actions volontaires, dont l'effectuation exige d'abord une anticipation, et puis ensuite une certaine constance dans l'effectuation, dans la durée. Alors, si vous voulez, ça va être plus clair en lisant le texte, puisque ce point est abordé à la fin du chapitre 27, ligne 100 à 112. Donc, c'est la page 7. Ligne 100 à 112, en haut à droite. Alors, vous avez repéré le passage ? Tellement que si quelqu'un se propose, de soutenir en parlant le ton de sa voix, il résout dans son esprit combien il la veut faire durer. Il détermine dans le silence cet intervalle de temps et le donne en garde à sa mémoire. Puis il commence à proférer cette voix, laquelle se fait entendre jusqu'à ce qu'elle soit arrivée au terme qu'il s'était proposé. Ou pour mieux dire, elle s'est fait entendre et se fera entendre, puisque ce qui en est déjà passé s'est fait entendre, et que ce qui en reste se fera entendre. Ainsi, elle s'achève lorsque l'attention présente de notre esprit fait que l'avenir devient passé, et que le passé augmente d'autant que l'avenir diminue, jusqu'à ce qu'étant entièrement écoulé, il n'y ait plus rien que de passé. Donc, en fait, calme. Augustin, vous voyez, va décrire de quelle manière le temps s'écoule. Et il s'écoule en raison même de l'activité de l'esprit. Le temps qui passe, c'est pas simplement du temps, si vous voulez, qui passe en nous comme si nous le subissions seulement. Non, il passe du fait de l'activité même de notre esprit, comme nous allons le montrer. Puisque, au fond, regardez bien, si vous commentez un peu l'image, hein, tout se passe comme si l'esprit versait l'avenir dans le passé, comme du sable dans un sablier. Hein, un peu cette image ici qu'on a en tête. En faisant en sorte que l'avenir devienne passé, en faisant que l'avenir devient passé, et que le passé s'accroît au fur et à mesure, évidemment, que l'avenir diminue. Hein ? Donc le passé s'accroît au fur et à mesure que l'avenir diminue. Et plus précisément, regardez bien, parce que là, j'ai résumé l'image, mais comment ça s'opère ? Le temps, si vous voulez, se comprend comme le projet et l'effectuation d'une action. D'abord, avant d'agir, vous projetez cette action. Avant de réciter un vers, hein, vous projetez de le faire, hein, vous anticipez cette action. Et puis ensuite, vous l'effectuez. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Et bien ici, c'est bien ce que décrit ici Augustin. L'action ici est d'abord anticipée par la conscience. C'est-à-dire, on se propose d'abord en silence de proférer une parole en un certain temps. Donc, l'action est d'abord anticipée par la conscience, puis elle est confiée à la mémoire, hein, puisque voilà ce que j'ai décidé, donc je retiens ce que j'ai décidé. Et puis, avant, elle est confiée à la mémoire, avant qu'une décision n'enclenche l'effectuation de l'action. Et alors, à ce moment-là, l'action se déroule comme l'épuisement du futur qui a été anticipé. C'est-à-dire que, et puis à ce moment-là, ce futur qui a été anticipé, eh bien, il est transféré dans la réserve du passé, jusqu'à ce que ce qui était anticipé devienne intégralement passé par l'effectuation d'action. Je décris ce qui s'opère. Mais on voit, voilà, donc ce que je voudrais qu'on retienne surtout, c'est que c'est l'esprit lui-même qui engendre le temps. C'est l'esprit lui-même qui fait passer le temps par son activité, vous voyez, d'après cet exemple-là. C'est l'esprit lui-même qui engendre le temps en transférant le futur dans le passé, en opérant le passage du futur vers le passé, à travers le présent. Vous voyez, c'est ce que veut montrer ici Augustin. Vous voyez, il y a une activité de l'esprit qui engendre le temps. Bon, et ce transfert qui va de l'avenir au passé, eh bien ce transfert s'effectue par les opérations de l'esprit lui-même, comme l'indique Augustin au début du chapitre 28. Hein, regardez, on va lire le début du chapitre 28, lignes 1 à 5. Mais comment le futur, qui n'est pas encore, peut-il s'amoindrir ou s'écouler? Ou comment le passé peut-il croître, puisque déjà il n'est plus, si ce n'est parce que dans l'esprit qui opère cet effet, il se rencontre trois choses, à savoir l'attente, l'attention et le souvenir. Donc, vous voyez ici, il y a un verbe qui est très remarquable, ça. C'est l'esprit qui opère cet effet. Donc c'est l'esprit qui agit. Hein. C'est, au fond, on pourrait dire, alors en termes modernes, on dirait que c'est, il y a une temporalisation par l'esprit. Hein. Vous voyez, c'est une temporalisation qui est le fait même de l'esprit. Donc quand le temps, on ne peut pas en parler comme quelque chose de purement passif, vous voyez, qui s'écoulerait en quelque sorte en nous sans que nous y soyons pour quelque chose. Puisque c'est l'esprit lui-même qui opère. Vous voyez ? Et alors, nous retrouvons ici, regardez bien, ces trois modes du présent que sont l'attente, hein, la tente. Pour le dire comme Augustin, la tente, c'est quoi? C'est le présent du futur. Hein? Le futur, c'est quoi? C'est la tente. Hein? Le futur, c'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose d'extérieur. Le futur, c'est la tente que. Hein? C'est la tente. Hein? Et puis, ensuite, vous avez l'attention, c'est le présent du présent. Et puis, vous avez le souvenir. Le souvenir, c'est le présent du passé. C'est-à-dire, puisque je ne me rapporte au passé qu'à travers l'image, l'impression que j'en ai gardée. Il n'existe qu'ainsi. Le passé n'existe pas. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Il est présent en moi, hein, sous la forme d'une image. Et donc, vous voyez, ce que vous allez comprendre, c'est que donc, ce sont là trois actes de l'esprit. Et c'est l'enchevêtrement de ces trois actes de l'esprit et qui va permettre de former le continuum du temps. Le continuum du temps, il se forme à partir de l'enchevêtrement de ces trois actes de l'esprit. C'est ça que nous allons devoir comprendre. Au fond, donc, si j'ai bien compris, si vous suivez toujours, le temps... J'espère, hein, vous avez intérêt, hein, j'interroge, je fais une interrogation écrite après. Le temps, c'est un mouvement psychique. C'est un mouvement psychique. C'est l'esprit qui déploie le temps par sa propre activité. Hein, c'est ça qu'on comprend bien. Alors, vous avez l'exemple du psaume. Ensuite, vous avez un exemple qui est très très riche. Et vous allez voir, par contre, en étudiant cet exemple, qui va reprendre ce que je viens de vous dire, mais en même temps, il va montrer que, et c'est ça qui fait la complexité du temps, c'est que l'activité par laquelle je fais le temps, eh bien, cette activité, elle a un revers. Elle a, comment dire ça? Elle a, c'est comme, comment dire, quand vous avez une pièce, vous avez le... La verre et le recto et le verso. Bon, voilà, on va dire comme ça plus les choses. Vous avez le recto, hein, l'activité, et puis le verso, c'est la passivité. C'est-à-dire que le paradoxe, si vous voulez, du temps, c'est que en faisant le temps, en se temporalisant l'esprit, eh bien l'esprit va se distendre et il va, en quelque sorte, être écartelé entre le présent, entre le passé et l'avenir. C'est-à-dire qu'il va, et par là, il est passif. Et par cette distension, il devient passif. C'est-à-dire qu'il y a une phase active et une phase passive, si vous voulez, dans le temps. Hein. Le temps est à la fois activité et passivité. Et indissolublement, activité et passivité. C'est ça que va montrer ici l'exemple du psaume. Alors, on lit l'exemple. Ligne 21. Par exemple, je veux réciter un psaume que je sais par cœur. Avant que de le commencer, mon attention s'étend à tout ce psaume. Alors ici, la traduction est fautive. Le latin dit non pas mon attention, mais mon attente. C'est mon attente. C'est-à-dire que l'attente ici, donc une tension vers le futur, l'attente, hein, eh bien l'attente embrasse la totalité du psaume. C'est-à-dire que quand je vais réciter un psaume, vous voyez, mon attente se porte vers la totalité du psaume. Mais si elle peut se porter sur la totalité du psaume, c'est parce que le psaume est déjà là en mémoire. Hein. C'est-à-dire que qu'il faut bien reconnaître, c'est que c'est la mémoire qui permet l'attente. C'est la mémoire qui ouvre la possibilité d'une action future. Parce qu'il faut bien que j'ai gardé le psaume en mémoire pour pouvoir me projeter vers la totalité du psaume. Hein ? Vous voyez ? D'accord. Bon. Je lis la suite. Mais, alors, ligne 23. Mais, lorsque je l'ai commencé, autant de versets que j'en ai dit et qui sont passés deviennent l'objet de mémoire. l'objet de ma mémoire, pardon, devienne l'objet de ma mémoire, et cette action de mon âme se sépare comme en deux parties. Dans l'une est mémoire, au regard de ce que j'en ai dit, et l'autre est comme une préparation et une attente au regard de ce que j'en ai encore à dire. Alors, je vais vous donner une autre traduction, ce sera peut-être plus clair. C'est-à-dire que là, vous voyez, là dans la traduction que je vais donner, c'est « et cette action de mon âme se sépare comme en deux parties. Dans l'une est mémoire au regard de ce que j'ai dit, et l'autre est comme une préparation, une attente au regard de ce que j'ai encore à dire. » Voilà la traduction l'autre traduction que je vous propose. « Les forces vives de mon activité sont distendues, vers la mémoire à cause de ce que j'ai dit et vers l'attente à cause de ce que je vais dire. » C'est plus net, c'est plus clair. Donc, en fait, ce qui, pour simplement retenir, c'est qu'ici, vous voyez, il y avait une activité de l'esprit, donc, parce que c'est lui qui déploie le temps, mais cette activité de l'esprit se scinde. Elle se scinde, elle se distend. Elle se distend en deux parties qui vont en sens inverse. L'esprit est en effet tiraillé, écartelé, entre deux tensions opposées qui sont, un, l'attente qui est une tension vers le futur, et puis deux, la mémoire, tension vers le passé. L'attente envisage la totalité du psaume qui est à venir, et puis la mémoire, elle recueille les fragments du psaume qui viennent d'être dits. Vous voyez, vous comprenez vous avez ce phénomène-là. Donc ces deux tensions, l'une vers le futur, l'autre vers le passé, ces deux tensions contradictoires opèrent de manière concomitante, puisqu'elles sont deux présents. Enfin, c'est-à-dire l'âme est constituée de trois présents, mais vous avez deux tensions concomitantes, l'une vers le passé, l'autre vers le futur, et elles vont en sens inverse, puisque l'une est le présent du futur et l'autre le présent du passé. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on peut dire que l'esprit est comme écartelé, voyez, comme distendu, voyez, dans l'expérience qu'il a du temps. Et ici, il n'y a pas que ces deux tensions, il y en a une troisième, évidemment. Et la troisième tension, c'est celle de l'attention. Et c'est-à-dire le présent du présent. Et cette troisième tension, l'attention, eh bien, c'est elle qui assure le transit, le transfert du psaume qui est encore à proférer aux parties du psaume qui ont déjà été proférées. Je lis le texte, regardez bien, ligne 29. Mais mon attention, par laquelle doit traverser pour parler ainsi. Vous voyez, il est obligé d'utiliser des métaphores spatiales pour dire quelque chose qui n'est pas spatial. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, mais mon attention, par laquelle doit traverser pour parler ainsi ce qui est encore à venir et à réciter afin qu'il devienne passé, est toujours présente, et plus j'avance dans ce récit, plus ce qui n'était que dans l'attente diminue, et ce qui doit être dans la mémoire s'augmente, jusqu'à ce que cette attente qui regardait l'avenir étant finie, il ne reste plus rien dans toute cette action que pour la mémoire, laquelle regarde le passé. Donc là encore, vous voyez ce transvasement, ce transfert, comme le sablier, C'est-à-dire que, ici, vous voyez que c'est dans cette action combinée de l'attente, de la mémoire et de l'attention que se constitue le temps, qui est à la fois ce que l'esprit engendre par son activité, mais aussi ce que subit l'esprit dans l'épreuve de la distension. C'est-à-dire qu'il est à la fois actif et passif. C'est lui qui fait le temps par son activité et en même temps, les retombées de cette activité, en quelque sorte, je ne sais pas comment le dire, eh bien, c'est cette distension, cet écartèlement entre passé et avenir. Donc, vous voyez, la passivité de l'esprit, je dirais, c'est l'avers, hein, c'est bien l'expression, c'est l'avers de son activité. C'est-à-dire qu'il se distend, il se dissocie en trois tensions distinctes dans la mesure où, justement, il se tend, dans la mesure où il est actif. Vous voyez ? Dans la mesure où il se temporalise. Et vous voyez, il essaie de décrire de façon, en étant le plus fidèle possible à l'expérience, ce qu'il en est finalement du temps, de ce qu'est le temps. Et donc, vous voyez, le temps est un mixte d'activité et de passivité. Alors, les analyses. Alors, je ne vais pas aller plus loin, hein, mais simplement, je vais faire un petit. Parce que là, j'en ai pour pas très longtemps. Et vous voyez que les analyses d'Augustin sur le temps, et elles peuvent être lues ici indépendamment de toute référence religieuse. Vous pouvez très bien lire tous ces passages, tous ces développements, toute cette description, sans forcément, vous voyez, vous référer à ce qu'il dit sur Dieu, etc. Et c'est d'ailleurs pourquoi il a été considéré comme une sorte de précurseur de ce grand courant philosophique qui s'appelle la phénoménologie, qui naît à la fin du 19e siècle avec Edmund Husserl. Je vous en ai parlé. Alors, j'aurais voulu montrer comment Husserl reprend, ben, je n'aurai pas le temps, j'essaierai peut-être de le faire, dans ce fameux livre que j'ai là, Leçon pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, grand texte philosophique, où, par exemple, il réfléchit sur des exemples comme ceux d'Augustin, la mélodie. Hein, réfléchit là-dessus. Et il réfléchit, il reprend largement ce que dit Augustin, il s'en distingue, comme il s'en démarque, et il enrichit cette analyse. Et c'est vraiment, un grand texte. Bon, mais si on comprend vraiment le projet d'Augustin, on ne peut pas tout de même faire l'impasse sur sa dimension religieuse. On ne peut pas le considérer comme un texte purement descriptif du temps. Hein, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, on voit bien qu'après l'analyse qu'il fait du temps humain, il revient à la question d'éternité. Il en était parti, vous vous souvenez, hein ? Et c'est à partir d'une réflexion sur l'éternité qu'il a amené la question du temps humain. Et bien maintenant, il reprend, voyez, la question de l'éternité. Il va montrer le contraste entre le temps et l'éternité. Et il va ainsi montrer la dimension finalement négative du temps. En insistant justement sur son contraste avec l'éternité. Alors, comme on l'a vu, l'expérience du temps, c'est une expérience contradictoire. C'est une expérience contradictoire, je dirais presque une expérience conflictuelle, puisqu'elle oppose l'activité de l'esprit par laquelle il échappe justement au flux du temps. Hein, il y a en lui quelque chose qui échappe au flux du temps. Et pour Augustin, c'est parce que nous sommes à l'image de Dieu. C'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui participe de la divinité. L'esprit participe de la divinité, c'est ça. C'est pour ça qu'il échappe au flux du temps, vous voyez, par l'esprit. Hein. Bon, le maître intérieur, c'est Dieu qui est en nous. Hein. Bon, donc il y a cette dimension-là, vous voyez. Donc, je reprends. C'est une expérience contradictoire, conflictuelle, puisqu'elle oppose, je répète, l'activité de l'esprit, par laquelle l'esprit donc échappe au temps et peut unifier. Son vécu. Et puis, cette activité, évidemment, s'oppose à la passivité, de l'esprit qu'il subit en tant qu'il est distendu, en tant qu'il est écartelé entre les choses présentes, entre les choses passées et les choses à venir. Vous voyez ? C'est-à-dire que y a une sorte de conflit interne à l'âme entre sa dimension active, par laquelle elle s'affirme comme âme et échappe au flux du temps, et puis sa dimension passive, hein, ce qui fait qu'elle est écartelée entre entre les moments du passé et du futur. Et dans le chapitre 29, eh bien, la distension de l'esprit est présentée par Augustin, cette fois-ci, sous un angle religieux. Elle est présentée comme ce qui prive l'homme de l'éternel présent. Parce que le vrai présent, n'oubliez pas, le vrai présent, c'est le présent éternel. Le présent, n'oubliez pas, au départ, c'est une détermination d'éternité. Le présent, il n'est ce qui tend à n'être plus en l'homme. Négativement, vous voyez. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, hein, ce que nous disions au début, le vrai présent est éternel. Hein, et le présent que nous vivons, dont nous faisons l'expérience, c'est celui par lequel c'est celui qui tend à n'être plus, hein, c'est celui finalement qui est affecté de non-être, hein, en quelque sorte. C'est celui qui fait que le temps nous voue à la disparition. Hein, bon. Eh bien, la distension de l'esprit est présentée justement comme ce qui prive l'homme de l'éternité, ce qui le voue justement à la disparition, au non-être, vous voyez, à la déchéance. Elle est ce qui fait que sa vie, comme dit Augustin au paragraphe 29, elle est ce qui fait que sa vie est dissipation continuelle. Ligne 3, hein, c'est la dernière page, ligne 3. Sa vie est dissipation continuelle, dispersion, déchirement, instabilité, multiplicité, par opposition à l'unité et à la stabilité de l'être éternel, qui est Dieu.
Ce qui va conduire effectivement Augustin à souhaiter, à demander
sa fusion avec... Et j'y viens, absolument. C'est-à-dire qu'ici, la condition temporelle de l'homme fait de lui un être, qui s'éloigne donc du présent de l'éternité pour ne vivre qu'un instant, pour ne vivre qu'un présent instable et dégradé. C'est pour ça que la question essentielle, c'est là-dessus qu'il termine, la question essentielle pour l'homme, c'est celle de son salut, du salut de l'âme. Et dans cette perspective, alors le temps n'est pas que dégradation. Il est ce qui va permettre à l'homme de prendre la décision. Il est le lieu dans lequel l'homme peut prendre la décision de se sauver pour l'éternité, hein, en échappant au temps, d'une certaine manière. C'est-à-dire, au fond, l'homme est face à l'alternative suivante, soit se perdre dans le temps, et alors, ici, il y a une formule, hein, ligne 27, le péché, ce qu'on appelle le péché, hein, le péché consiste à être sujet à la vicissitude et aux impressions du temps. C'est-à-dire que l'homme qui est pécheur, c'est l'homme qui se perd dans le temps, hein, qui se perd dans le temps, qui erre, en fait, qui est dans l'errance, hein, qui est dans l'errance permanente. Et puis, donc, soit se perdre dans le temps, vous voyez, soit au contraire, chercher à s'extraire du temps en se sauvant dans l'éternité. Et qu'est-ce que ça veut dire se sauver dans l'éternité? S'unir à Dieu. S'unir à Dieu, et là nous allons le dire. Et nous avons terminé comme ça, et après je dirai amen. Eh bien, on va lire les dernières lignes, enfin, pas tout à fait les dernières lignes, mais, comment dirais-je, où est-ce que j'ai... Oh, c'est toujours pas... Ah, allez, là. Page 8. Voici ces lignes. Alors j'ai dit ligne 24 à 33. Oui, enfin la fin du chapitre 29, quoi. Mais maintenant mes années se passent dans les gémissements et dans les douleurs, et au lieu que vous, Seigneur, qui êtes mon bon Père et toute ma consolation, jouissez d'une éternité bienheureuse, je suis devenu par mon péché sujet à la vicissitude et aux impressions des temps, dont j'ignore l'ordre et les suites, et mes pensées, qui sont comme les entrailles de mon âme, sont déchirées par mille différents troubles qui les agitent, c'est ça la distension d'esprit, hein, et les agiteront toujours, jusqu'à ce qu'étant purifié par le feu de votre amour, je m'unisse à vous de telle sorte que je ne sois plus qu'une même chose avec vous. Voilà. Eh bien, j'arrêterai là, parce qu'il n'y a rien à dire. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Voilà, merci. Alors, est-ce que ça vous a paru très compliqué? Faut suivre le texte, hein. Faut suivre le texte. Là, si vous ne suivez pas le texte... Après, vous pouvez le relire, hein. Tranquille. Alors, oui, c'est vrai qu'ensuite, il inaugure une certaine façon de voir le temps, de penser le temps, qui, je répète, va être prolongé par des auteurs qui n'ont absolument aucune préoccupation théologique. Hein. Oui. Alors, leçon au pluriel, pour une phénoménologie de la conscience intime du temps. J'avais mis le titre dans le premier plan, la dernière fois. Pour une phénoménologie de la conscience intime du temps. Et puis il y a Bergson qui doit d'une certaine façon sa réflexion à la lecture de Augustin, c'est clair.
Il est toujours,
on peut le trouver, ce... Oui. Oui, oui. Et bon... Husserl, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à lire, hein, en général. Mais là, non, ben c'est vrai, hein, c'est vraiment un auteur. J'ai rarement vu, d'ailleurs, j'ai pas vu beaucoup d'émissions sur lui. Enfin, sur France Culture, vous n'en trouvez pas. Hein. C'est vraiment fondamental. C'est un auteur, c'est peut-être le plus grand philosophe du XXe siècle. On parle toujours de d'autres philosophes, mais c'est lui qui a inauguré. Hein. La voie que les autres ont suivie. Alors, là, par contre, c'est peut-être un des textes qui soit le plus accessible, parce qu'il y a tout de même des exemples sur lesquels... Voilà. Voilà. Au départ, c'est un mathématicien. Hein, c'est un mathématicien qui a réfléchi sur la géométrie. Puis il est mieux à la physique. Il est mort en 1939. Il est mort... il était juif. Imagine bien le destin qu'il aurait pu avoir. Vous avez été d'ailleurs viré de l'université. Hein. Son élève, son plus brillant élève, Heidegger, qui a adhéré à un moment donné au parti nazi, au début. Après, il est parti. Faut pas exagérer son importance, hein, sur le plan politique. Hein. Et évidemment, il n'a pas soutenu. C'est moins qu'on puisse dire. Oui.
Et dans la Genèse, le péché originel, même Dieu ne rembobine pas la cassette pour dire non, il ne s'est rien passé, Adam n'a pas péché. Donc en quelque sorte, Dieu abandonne l'humanité à se présenter à lui.
Alors,
est-ce que c'est ce que prétend Augustin?
Alors, Augustin, c'est lui qui élabore la doctrine du péché originel. Hein.
Ben voilà, non, moi, ça me semble pas.
Saint Paul, peut-être, mais sur cette piste-là. Mais c'est lui, évidemment, qui élabore la doctrine du péché originel. Alors, ça veut dire, effectivement, que c'est compliqué, le péché originel. Parce que, c'est-à-dire que l'homme est libre, c'est lui qui pêche, c'est lui qui décide de céder à la tentation. Mais il y a une tentation, puisque le serpent figure ici la tentation. C'est-à-dire que c'est d'une liberté qui n'est pas... C'est une liberté impuissante, en quelque sorte. Une liberté qui a tendance à céder. Mais qui est tout de même une liberté. C'est-à-dire que ce qui oppose, par exemple, Augustin à Pelage, hein, cette hérétique qu'il combat à son époque, c'est que Pelage, lui, considère que l'homme est entièrement libre, il dispose d'un libre arbitre, et qu'il a la possibilité, en fait, de se sauver du péché, simplement par sa liberté. Tandis que chez Augustin, l'homme est libre, certes, mais il a besoin de la grâce, il a besoin du secours de Dieu.
Et l'homme fait le mauvais choix.
Ouais.
De se détacher de Dieu, et ce faisant, il tombe dans ce présent rabougri dont vous parlez.
Voilà. Oui, il s'écarte, voilà, absolument. Et là c'est ça qui... Oui, exactement. Tout à fait. Vous avez raison. Ça, y a cette idée-là dans le texte. C'est-à-dire que, au fond, il quitte, au fond, la lumière divine, il se sépare de Dieu par le péché originel. Et à ce moment-là, il vit dans la vicissitude des temps. Hein, il est voué à l'errance. Hein, il est... tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Vous êtes perplexe, quelle est la question?
Non, je pensais au rôle de Ève
là-dedans. Ève, elle n'est pas nommée hein, dans le texte. Et puis Ève et Adam sont une seule et même personne, en fait. Si vous voulez, on peut très bien le lire comme ça. Considérer que... oui, parce que c'est vrai que la lecture qui consiste à dire c'est Ève, la tentatrice, c'est... Le pauvre gars, il a cédé parce que c'était elle. Hein. Bon, c'est un peu simpliste. Ève, c'est la partie faillible en chaque homme, en quelque sorte.
Voilà.
Non, c'est pas le maillon faible. C'est la partie faillible en l'homme. L'homme étant à la fois Adam et Ève. L'homme étant, il y a du Adam en l'homme et du Ève en l'homme. Voilà. Et du Ève en moi. Mais c'est vrai que tout ça, c'est de la... Ouais, oui.
Pour en venir au temps, je me demande si l'exemple qu'il a choisi du psaume qu'il connaît par cœur, c'est le meilleur exemple, parce que dans sa mémoire, il avait le psaume, ensuite il le récite, donc ça passe du passé, et ça revient au passé. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu utiliser un discours simplement qu'il ne connaît pas ? Est-ce que ce ne serait pas plus parlant, disant j'ai un discours dans mon nez, ça va passer du futur vers...
Oui, mais ce qui rend possible l'effectuation du discours, c'est que j'ai en mémoire ce que je vais dire.
Oui, je sais.
Ben, ça vous ennuie, mais c'est ça le problème. Hein. C'est que ce qui rend possible effectivement l'opération de l'attente, c'est qu'il y a en mémoire effectivement un texte que je connais déjà, que je connais par cœur. C'est vrai. C'est vrai.
Oui. Une petite question aussi.
Oui. Allez-y.
Ah ouais,
avec les 48. Ah, alors bon, pardon.
Avec la théorie de la destruction de l'esprit, j'avais l'impression qu'on est conscient du présent du passé et du présent du futur. On n'est pas vraiment conscient du présent du passé.
On n'est pas conscient du
présent.
Si, on est présent, on est présent, on est présent.
On est acteur, mais il n'y a pas cette notion des...
Si, on est présent de trois manières, enfin, en même temps. On est présent au futur, au passé, et on est présent dans le présent, puisqu'on fait transiter le futur au passé. Donc il y a...
Mais c'est juste l'action, en fait. Dans le présent, on ne fait que cette action de l'un à l'autre. Mais on ne peut pas être conscient dans le présent.
Si, tout de même, on est conscient de ce qu'on opère, de ce qu'on veut faire.
Non, parce que c'est le passé qui te dit... Enfin, c'est le présent du passé qui te dit ça.
Disons, il y a quand même une décision. C'est une décision qui se fait par un acte.
Mais la décision, lui, il l'a fait par avant. Il a dit avant, je décide quand je vais m'arrêter. Et puis.
Non. Si vous regardez l'exemple, c'est. Comment dire, il a projeté de.
On va dire compter jusqu'à 5. Je projette le fait que je vais m'arrêter à 5.
Voilà. Et ça, c'est un projet présent. Et je compte sur le fait. Et je compte. Non, oui, mais c'est un projet. C'est un projet qui fait que... comment il est... Il faudrait que je retrouve le texte. 27, hein, je pense. Je me propose... Je me propose de... de lire un texte, je sais pas, me propose de soutenir en parlant le ton de ma voix. Enfin bon, il y a tout de même une décision d'abord présente, et une fois que j'ai projeté ce que j'allais faire, je le garde en mémoire. Le gardant en mémoire, je vais m'appuyer sur ce que j'ai retenu pour effectuer mon action. Ah, toujours. Il y a toujours une interaction.
On n'est jamais vraiment dans le présent.
Ah non, oui, tout à fait. Oui, ah oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que ou alors il faudrait le présent plein, ce serait l'éternité, quoi. Mais dans le présent, absolument, le présent est toujours en rupture avec lui-même. Il y a une faille constitutive du présent humain. Il y a une non-coïncidence à soi, en quelque sorte. Hein, qui fait que, justement, l'homme est dans une... un processus temporel qui ne cesse de se poursuivre. Cette espèce de faille, cette espèce de rupture, cette espèce d'arrachement à soi, finalement, qui constitue le temps, et justement la marque de notre condition humaine, hein, de ce qui fait que justement nous ne sommes pas Dieu. Mais c'est ça l'idée, je pense.
La méditation de pleine conscience, justement, normalement, elle vise à aider à...
Alors là, je ne sais pas quoi vous dire. Oui, alors... Oui, alors, allez-y.
J'ai l'impression qu'on a une description du temps à travers un mouvement.
Un mouvement.
Oui. Un mouvement d'esprit. Oui. Bon, mais il y a effectivement peut-être des moments où l'esprit va...
Ah.
Et là, le temps passe néanmoins.
Oui, c'est une bonne, une sorte de relâchement,
voilà.
De relâchement. Et c'est là, il y a une tension constitutive. C'est toujours en termes de tension, d'extension, de tension, effectivement. Tout à fait. C'est vrai. Vous avez raison.
C'est pas tous les états de la conscience qui sont décrits.
Tout à fait. Oui. Et je pense par exemple aux rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, où là effectivement il y a un relâchement total, il y a un abandon au présent, d'un présent sans avenir, sans passé, d'un présent pur. Cette expérience d'un présent pur, c'est vrai qu'elle n'est pas envisagée ici par Augustin.
Pendant le sommeil.
Oui.
Pendant le sommeil, le temps passe quand même.
Oui, mais alors là, oui, le sommeil, mais non, sans parler du sommeil, même la simple rêverie, la simple, on est là, mais on est là d'une manière qui fait qu'il n'y a aucune tension.
Il est vrai qu'à un moment donné, je pense, dans le chapitre 29, je ne retournerai pas, un état, disons, mais plus mystique là, qui serait un état de contemplation. Contemplation de Dieu. C'est peut-être là qu'il doit être. Voilà que. Ou en fait, j'imagine des cantiques, etc. Je ne sais pas. Ouais.
Oui, mais en même temps, oui, alors c'est vrai qu'il faudrait travailler un peu plus peut-être le chapitre 29.
Ouais.
Parce que quand il s'unit à Dieu, de quelle manière il envisage effectivement cette union ? Et est-ce qu'elle abolit effectivement le passé, le présent ? Est-ce que... Voilà. C'est comme si le présent se concentrait sur lui-même, en quelque sorte.
Il ne connaît ni avenir ni passé parce qu'elle est d'un immuable et toujours présent.
Voilà.
Mais en fait, il entendrait des cantiques, donc les cantiques auront un début et une fin. Je crois qu'on en sort pas.
Oui, là, c'est peut-être... Oui, vous avez raison, hein, c'est sûr qu'il y a cette expérience d'un présent qui abolit le passé, en quelque sorte, et le futur qui supprime la distension et qui est entièrement consacré qui est complètement centré sur lui, en quelque sorte. Oui ?
Est-ce que
sûr, vous pensez qu'Augustin abandonne l'idée de régularité du temps. Parce que quand on parle de temps cosmologique,
oui.
On pense à une certaine régularité.
Oui, oui.
Ce qui fait que quand on dit régularité, on pense temps, on ne peut pas dissocier mouvement, régularité et temps. Et par contre, là, il ne parle plus de régularité, il ne parle plus de mesure du temps.
Si, 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 si. Si.
Ah ben, j'ai pas eu cette impression.
Oui, 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 je sais bien, mais y a une mesure qui est intérieure à l'esprit.
Oui, c'est ça, mais chacun sa mesure, si vous voulez.
Alors.
Si j'ose dire.
Oui. C'est vrai que ça.
Ce qui ne me choque pas, personnellement, oui. Mais c'est un abandon de mesure universelle, si vous voulez. Chacun sa mesure.
Oui, je comprends. C'est vrai qu'il y a une difficulté, disons. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas mes limites de lecture qui jouent dans le fait que je vous réponds mal, ou pas assez bien. Et c'est vrai que dans le texte, je ne vois pas effectivement comment je peux bien vous répondre. Mais non, je pense qu'il y a une... Bon, est-ce que la mesure, est-ce que c'est laissé à la subjectivité purement et simplement de chacun?
Parce qu'en musique, Toscanini expédiait une symphonie de Beethoven plus vite que François Wengler ou un autre.
Oui, alors ça il a évoqué cette vitesse. Mais ça, à la limite.
Alors qu'il y a une partition qui est apparemment indiscutable.
C'est vrai que l'unité de mesure subjective a. Inhérente à l'esprit, on la conçoit difficilement.
Moi, je peux l'éliminer, ça me gêne pas.
Mais moi, ça me gêne. Non, mais ça me gêne au sens où je trouve que, est-ce que c'est la lecture qui, est-ce que c'est le texte lui-même qui laisse ça dans l'ombre, ou est-ce que c'est une lecture insuffisante, je ne sais pas. Oui. Oui.
Oui. Et l'arbre qui n'a pas de projet, ça ne l'empêche pas de pousser pour autant. Donc, il est en proie au temps aussi.
Alors, oui, alors là c'est un aspect. Il ne dit pas. Enfin, là, c'est compliqué parce que Augustin ne dit pas que le temps n'existe pas dans la nature. Il montre que l'expérience qu'on a du temps, c'est celle. Il centre l'analyse, c'est pas clair chez lui ça. Il centre l'analyse sur l'âme, effectivement, sur la conscience que nous avons du temps, mais il n'écarte pas l'idée qu'il y ait un temps dans la nature, ne serait-ce que par la croissance des fruits, effectivement, et même un temps objectif, quoi, d'une certaine façon.
C'est dans la tête de Dieu à ce moment-là.
Alors, ouais, et exactement, c'est ça. C'est ça, c'est qu'il y a, c'est peut-être de ce côté-là, effectivement, qu'il faut envisager les choses. C'est qu'il y a, au fond, comme l'histoire est en germe, comme si effectivement il y avait une sorte de plan divin qui présidait effectivement aux choses. Bon. J'ai pas entendu.
On découvre toujours de nouvelles planètes qui sont tournées déjà pour les observer.
Alors, oui, alors ça c'est un fait, mais si vous voulez, c'est plutôt une objection qu'on opposerait à tous ces philosophes qui centrent l'analyse du temps sur la question de la conscience. Enfin, c'est vrai. C'est-à-dire que quand par exemple le philosophe Kant dit que le temps c'est une structure d'esprit, on lui opposera que, l'homme n'était pas né, que il y avait du temps, puisque les planètes ne se sont pas formées, elles n'ont pas toujours été éternelles, se sont formées, le monde a tant d'années, etc. Bon, et c'est vrai qu'on aura beau jeu de le dire. C'est une question assez difficile, parce que c'est vrai qu'on est écartelé entre ces deux conceptions. On est écartelé entre cette conception d'un temps objectif, d'un temps cosmique, et puis d'un temps, subjectif, et un temps purement objectif, qui ne pourrait pas être aperçu par l'esprit, par l'âme. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? Rien. C'est difficile, c'est une question. C'est la question du temps, une question redoutable. Hein. Oui, mais en même temps, le temps, c'est une structure de l'esprit. Ça veut dire par là qu'il n'y a pas de temps objectif, hein, pour lui.
Oui, tout à fait.
Pas de temps objectif. C'est une façon de nous rapporter à l'expérience. C'est-à-dire que pour lui, absolument. C'est-à-dire que l'expérience. Voilà, c'est le temps. Le temps concerne les phénomènes. Voilà, nous nous rapportons. À... Voilà. Et maintenant, ce que sont les choses indépendamment de nous, voilà. Pas de savoir. Donc c'est délicat. Et oui, c'est une question où on bute tout le temps sur des problèmes difficiles, insolubles. Alors, effectivement. Augustin s'appelait plus que Newton. Ça nous plaît plus parce que c'est une certaine beauté du texte. C'est certain. Hein. Mais c'est rigoureux en même temps. Pas non plus. D'autres questions ? Alors vous voyez, je n'ai pas pu bien répondre à un certain nombre de vos questions. Ça vous a paru difficile ?
Avec le temps,
ça s'arrangera. Mais il suffit que vous ayez un peu de patience ici. Vous acceptiez que le temps fait bien les choses. Voilà, je crois, en fait, il faut relire le texte. Voilà. Eh bien, on va peut-être arrêter là. Merci. À bientôt, le 19.